Vous êtes sur RTL.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h44, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin Ségolène Royal, présidente de Désir de France, Avenir de la planète.
Bonjour Ségolène Royal.
Bonjour.
L'utilisation du 49.3 pour faire passer la réforme des retraites à l'Assemblée, est-ce que ça vous choque ?
Oui, bien sûr, ça choque, pas seulement moi, mais je pense la société tout entière. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin aujourd'hui plus que jamais d'unité nationale avec l'épreuve de cette crise sanitaire que nous traversons. Et c'est incompréhensible. Je pense qu'il y a à la fois un problème de contenu, de méthode et de contexte. Le contenu, on sait que 2 tiers des Français sont contre cette réforme.
C'est pas vraiment 2 tiers, hein. c'est surtout 72% qui ne voulaient pas que le gouvernement utilise le 49.3.
Ça, c'est la méthode. Donc pourquoi est-ce qu'il faut une nouvelle fois faire un choc, une brutalité à la société française ? Ça rejoint un peu d'ailleurs ce que je dis dans ce livre
«
Résilience française ». C'est-à-dire la société française subit trop de chocs.
On va y venir. Mais
le dénigrement et l'arbitraire. Et on est là, on est à la fois dans le dénigrement de ce que pensent les Français et dans l'arbitraire de la méthode.
On va en parler. Le 49.3, vos amis socialistes l'ont utilisé, ce sont même eux qui ont le plus utilisé dans l'histoire, c'est prévu dans la Constitution. Il a été utilisé 89 fois.
Il a été utilisé pour unir des majorités qui étaient désunies. Mettre fin à un débat.
La Constitution ne précise pas son emploi. On peut l'utiliser, c'est une arme.
Encore une fois,
vos amis socialistes l'ont beaucoup utilisé.
Que ce soit une arme constitutionnelle, ça ce n'est pas contestable. Mais lorsqu'il a été utilisé le 49.3, c'était pour contraindre une majorité à soutenir le gouvernement avec lequel il avait été élu. Jamais, jamais le 49.3 n'a été utilisé contre un débat parlementaire qui concerne 40 millions de Français. Cette utilisation du 49.3 au bout de 15 jours de débat parlementaire.
Oui, mais comment fallait-il répondre à l'obstruction qui bloquait finalement le débat ? Même Laurent Berger de la CFDT dit qu'il y avait un enlisement, un pourrissement même.
C'est vrai que c'était pas satisfaisant ce niveau de débat, mais à qui la faute ? Jamais le gouvernement n'a proposé à l'opposition de retenir un certain nombre de ses amendements. Le Conseil d'État lui-même a fait quand même des recommandations très sévères à l'égard du gouvernement, et notamment sur l'étude d'impact. Est-ce que le travail de remise à jour de l'étude d'impact demandé par le Conseil d'État a été fait ? Non. Donc il y a quand même un dysfonctionnement des institutions par rapport à la sévérité des plus hautes instances qui ne sont pas politisées. C'est pas une instance politisée, le Conseil d'État. Et pourtant, le gouvernement n'a pas répondu à ces attentes qui sont légitimes dans un pays démocratique pour comprendre qu'est-ce que c'est que cette réforme, quelles vont être ses conséquences, comment elle va être financée. Et à ces questions toutes simples, le gouvernement ne sait pas répondre.
Le débat est terminé parce qu'il y a 300 amendements qui ont été votés, de tous bords d'ailleurs. Le débat va continuer au Sénat, il va revenir à l'Assemblée. Le débat continue aussi avec les syndicats sur la pénibilité. Pour vous, le débat est mort là maintenant ?
Mais pas du tout, puisque le texte va partir au Sénat. Donc le débat va continuer.
D'où l'absurdité
de mettre fin au débat parlementaire et surtout à quelques jours d'une élection municipale. Et dans un contexte, je le répète, où on a besoin d'unité nationale par rapport à ce choc que subissent les Français.
Alors pourquoi c'est un choc ?
Je crois que c'est un choc parce qu'il y a une brutalisation de la société française. C'est violent. Cette accumulation de violence permet de poser la question de savoir si oui ou non nous sommes à un point de bascule, c'est-à-dire si les coups portés au modèle social français, est-ce qu'on va pouvoir remonter la pente le jour où il y aura une alternance. C'est pas évident, et c'est pour cela que je fais cette comparaison entre les coups portés à l'écosystème de la planète et à l'écosystème humain qui est une société. Et dans ces coups que sont l'abandon, l'isolement, le dénigrement, l'arbitraire et la destruction de ce qui s'est passé avant. Voilà les 5 coups que j'identifie à la fois sur l'écosystème planétaire et sur l'écosystème humain, sur la société française par rapport à la brutalité de la politique. Il y a des solutions.
Mais qui est responsable,
il ne suffit pas uniquement de critiquer, il faut aussi proposer. Et les solutions, il y en a une qui est adaptée à la question des retraites, c'est celle que j'appelle l'adaptabilité précisément, c'est-à-dire que lorsqu'on fait une réforme politique, il faut être extrêmement extrêmement attentif à la réaction du corps social pour pouvoir la réajuster. Or là, on a un gouvernement sourd et aveugle qui a dit une chose et qui dit on n'écoute rien, on avance et on fait comme on a dit. Mais non, c'est pas ça la politique. La politique, c'est à la fois un contexte, c'est la prise en compte de la réaction du corps social. Et en démocratie, on écoute les citoyens. Et quand plus de 70% des citoyens vous disent on ne veut pas le 49-3 parce qu'on veut un débat, parce qu'on veut comprendre, parce qu'on a du bon sens, parce qu'on a de l'intelligence collective et qu'un gouvernement en place n'écoute pas cela, alors oui, c'est un problème et c'est d'une grande violence.
Vous avez dit, j'ai suffisamment exercé de fonction ministérielle pour savoir que l'État ne tient pas toujours ses promesses. Qu'est-ce que vous vouliez dire ?
Ça veut dire que lorsque on dit, comme on l'entend aujourd'hui, le président de la République, le Premier ministre, dire « on a dit dans une campagne électorale qu'on allait faire la réforme des retraites à
point ». Il l'a dit.
Il l'a dit, mais il n'avait pas dit qu'il allait bouger l'âge de départ à la retraite. Et quand on dit une formule comme celle-ci, on n'a rien réglé, puisque au moment où on fait une réforme, le contexte a peut-être changé. La façon dont on va décider les choses va bouger la société, et donc en retour, il faut être très attentif à ce retour de la réaction du corps social, à ce que disent les citoyens, parce qu'ils peuvent être intelligents, ils le sont, les citoyens. Ils sont intelligents, ils sont les meilleurs experts de ce qui les concerne.
Ségolène
Royal. Et par conséquent, l'écoute attentive des citoyens, c'est un élément clé du bon fonctionnement des institutions. Et c'est cela qu'on n'a pas aujourd'hui.
Si j'étais à la place d'Emmanuel Macron, la France irait mieux. Ça aussi, vous l'avez dit.
Oui. C'est sûr.
Vous
pourquoi
en êtes
parce qu'il n'y aurait pas cette brutalité-là, parce que la taxe carbone aurait été retirée en 48 heures et on n'aurait pas eu un an de désespoir, puis de dégradation de la situation sociale avec
sur
la
un
violence.
Sur un autre sujet, les quotas, on vous a reproché de l'avoir retiré.
Et justement, j'ai évité à la France ce que l'on a vu avec les gilets jaunes et je suis fière d'avoir été capable de cette adaptabilité, précisément de cette prise de conscience, de cette écoute des citoyens et d'avoir empêché le blocage de la France par les camions pendant plusieurs mois. C'est pour ça qu'avec cette expérience, je sais qu'on est capable de diriger, de présider, de gouverner un pays sans le brutaliser et avec bienveillance.
Vous êtes persuadé que l'on vous a volé la victoire. Vous pensez que vous auriez été élu. Dans votre livre, vous dites que vous avez pardonné mais pas oublié. Vous faites référence à 2007 et à vos amis socialistes à l'époque.
Oui, c'est une question de résilience aussi. C'est savoir qu'est-ce que c'est la résilience, c'est savoir comment on se remet debout après des épreuves. Comment un pays se remet debout après ces chocs, c'est ça la résilience française. C'est utilisé aussi en écologie. Hein. Comment est-ce que des territoires qui subissent le dérèglement climatique ou la violence des inondations, des incendies, etc., se reconstruisent pour retrouver un nouvel équilibre. Donc c'est cela qui est très important. Où est-ce qu'on va chercher les sources de ce courage pour se remettre debout malgré les épreuves et pour grandir à partir de ces épreuves et peut-être aussi grandir à partir de ces erreurs.
Mais quand
c'est
vous
ça
dites
le chemin d'une vie.
Quand vous dites « j'ai pas oublié ce qui s'est passé en 2007 », vous semblez dire qu'on vous a volé la victoire.
J'ai pardonné, mais j'ai pas oublié. C'est vrai dans toutes les chocs que l'on prend, ou les épreuves que l'on subit, ou les agressions que l'on subit.
Et quand vous dites « je ferai mieux qu'Emmanuel Macron », mais ça veut dire que vous êtes candidate ? Que vous y pensez ?
On verra. On verra le moment venir. En tout cas, je suis là devant vous à répondre à vos questions. Donc, je n'ai pas quitté la politique
Loin
française.
De là.
Je ne suis pas partie dans le secteur privé. Même si aujourd'hui, le gouvernement en place considère que tout ce qui est privé, c'est mieux que tout ce qui est public. On voit que ce n'est pas le cas avec l'hôpital public, auquel il faut maintenant donner les moyens. On voit bien que le secteur public, heureusement qu'il a résisté pour faire face à des épreuves sanitaires comme celles auxquelles nous sommes confrontés.
Ben justement, l'hôpital. On parle du coronavirus. Vous faites confiance aux autorités qui font face au coronavirus ?
Oui.
Oui. On a interdit les rassemblements de plus de 5000 personnes. Est-ce qu'il faut aller plus loin, selon vous ?
Moi, je laisse aux personnes compétentes hein, sur ces sujets-là la responsabilité de décider. Je pense qu'elles le font avec conscience et avec professionnalisme.
Mais vous avez vu, le salon du livre est annulé, mais...
C'est dommage, je vais y être.
Ah, le championnat de France de foot n'est pas annulé, ni le top 14 de rugby, ça draine des milliers.
Oui, moi je ne vais pas polémiquer sur ces sujets-là. Ce n'est pas facile hein, de prendre des décisions dans ce domaine.
Vous vous protégez,
donc, je respecte.
Vous vous protégez, vous portez un masque
Non,
vous...
non, pas particulièrement, non.
Non,
j'écoute les instructions, justement. Parce que le masque ne sert pas à grand-chose que lorsque l'on n'est pas malade, donc... Mais je trouve que les Français particulièrement matures et particulièrement maîtrisés, voyez, on voit pas de panique.
Mais justement, oui,
je crois que c'est ça qui est.
Il y a quand même une inquiétude qui monte. Est-ce que vous craignez une panique, un sentiment de panique qui s'empare des Français?
J'espère que non, mais on verra comment les choses évoluent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de maîtrise, hein, c'est ça. Le peuple français, je crois, lorsque on l'élève, il s'élève, voilà. Et lorsqu'on le dénigre, il s'abaisse. Et c'est vrai dans tous les domaines. Donc ne le dénigrons pas, ne l'abîmons pas, ne le brutalisons pas, parce que je crois qu'il fait toujours face à ses responsabilités lorsqu'il est confronté à des épreuves.
Ségolène Royal, vous regrettez le César de meilleur réalisateur pour Roman Polanski pour son film « J'accuse » ?
Oui, je trouve ça scandaleux. Je trouve ça scandaleux parce que depuis quand est-ce que le talent devient une excuse pour atténuer des crimes, notamment des crimes sexuels?
Vous l'avez vu, J'accuse
sur enfants? Non, je n'irai pas le voir.
Vous ne faites pas la différence entre l'homme et l'artiste.
C'est une grande souffrance pour toutes les femmes qui ont subi des violences sexuelles d'observer que c'est comme s'il ne s'était rien passé. Vous savez, la meilleure solution, ça aurait été qu'il ne soit pas candidat. Qu'il ne soit pas candidat à un prix au César. Et comme ça, il n'y aurait pas eu de polémique.
Il n'était pas candidat, c'est l'Académie des Césars qui a choisi son film.
Eh bien, s'il avait lui-même déclaré qu'il n'était pas candidat, je crois que les choses auraient été plus respectueuses pour toutes les femmes qui ont subi ces violences sexuelles, dont beaucoup, beaucoup n'osent pas encore parler.
Merci beaucoup Ségolène Royal.
Sur une possible candidature présidentielle de Ségolène Royal, on notera cette formule très ouverte. On verra, dit deux fois. Et sur l'utilisation du 49.3, c'est une brutalité dont la société française n'a pas besoin. Merci beaucoup. Si vous voulez vous intéresser au 49.3, restez avec nous Ségolène Royal, puisque notre camarade Cyprien Sini...